Ça n'est pas l'été, non, ça n'est pas l'été, ça n'est pas le printemps non plus. Il y a ce même petit côté acide comme ça, des notes que vous entendez. Il y a cette impression que les feuilles, que les arbres, que l'air finalement. Oh, plus que l'air, la lumière à travers l'air. Et puis le ciel. Un ciel, il est bleu, mais il a en même temps quelque chose de beaucoup plus transparent qu'un bleu qui s'arrête au bleu. Il va plus loin et puis il y a juste un tout petit nuage qui s'amuse à quelque part et qui nous nargue. Et tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes en pleine ville, mais une ville qui a quelque chose d'incroyablement confortable. Des murs ocre, des murs rouges, des pavés un peu partout. Et puis vous commencez, elle paraît posée dans un nid, dans un creux, cette ville curieuse. Elle est faite de plusieurs collines. Vous ne savez pas comment vous êtes arrivé dans le centre, mais tout à coup vous avez été projeté dans un autre monde. Écoutez-le, c'est un peu celui qu'on entend, ce côté hispanique. Oui, hispanique, mais une Espagne d'ailleurs, une nouvelle Espagne. En 1223, vous auriez pu marcher, partir depuis l'Italie, traverser tout le nord de cette Italie en partant, je ne sais pas, d'Assise par exemple. Vous y êtes, il marche. C'est un homme qui a découvert une foi assez tard, à partir de 32, 33 ans, il s'est affirmé. Il a changé, il n'a plus rien d'un drapier ou d'un fils à papa qui s'amuse, qui sort le soir, qui dépense, qui dispense sa vie. Non, tout à coup il a un semblant d'auréole qui se forme autour de lui. Il a ce côté déchaussé. Il va prendre l'habitude, lorsque son ordre sera fondé, de porter la bure, une bure brune avec un cordon autour de la taille. C'est un frère prêcheur, c'est un frère marcheur. C'est un de ces hommes qui vont faire que des milliers d'hommes vont partir dans le monde entier. Et là, dans les années 1223, qu'est-ce qu'on pourrait faire en le suivant? Traverser le sud de la France, passer par les Pyrénées, et puis marcher encore, s'arrêter de temps à autre dans un couvent, rencontrer une femme, une abbesse, discuter du passé et des gens qui ont fait ce chemin de Saint-Jacques. Vous êtes François, Saint François, et vous vous retrouvez comme cela au bout du monde, et à partir de là, j'imagine ce qu'il a pu ressentir, ce Moyen-Âge qui vous saute à la figure en Espagne, cette espèce de chose qui vous dit d'avance à travers les grandes plaines, lorsque vous pénétrez dans une église romane, je parle à Dieu, mais de façon horizontale. C'est vraiment une conversation face à face. Et puis vous redécouvrez des hommes qui ont marché sur cette même piste incroyable qui traverse toute l'Europe. Je pense à Joachim de Fleur qui tout à coup a déclaré que, ben tiens, si jamais le monde s'arrêtait. En l'occurrence, si tout à coup l'Apocalypse pouvait exister, si la fin du monde pouvait arriver, qu'est-ce qui pourrait accélérer la fin du monde? La fin d'un millénaire comme le nôtre? Vous êtes dans les années 1000, 1000 et quelques, c'est un peu dans l'air. On se dit que, en lisant véritablement Saint Jean, on pourrait deviner que ces fameux 1000 ans, vous savez, on parle toujours du... Maintenant, on en parle beaucoup plus, du millénarium. Le millénarium, on ignore parfois ce que c'est. C'est en fait cette période un peu magique, comme ça, un peu étrange, qui est annoncée par la Bible, et qui dit que si par hasard le monde entier était touché, s'il n'y avait plus une tache blanche, tiens, nous y sommes. En tout cas, sur le plan indigène, il n'y en a plus beaucoup. L'homme est arrivé partout, l'homme a rencontré l'homme partout. Et le franciscain va avoir la même idée. C'est-à-dire, si par exemple on arrivait à toucher le monde entier, bien sûr avec l'idée de la foi, eh bien peut-être qu'on pourrait accélérer le temps, ou plus exactement, on pourrait pénétrer dans cette période extraordinaire de 1000 ans d'attente avant la fin du monde. Ce millénarisme, c'est quelque chose qui va certainement gratouiller la tête de tous les franciscains et ceux qui vont suivre Saint François aussi. Et si j'étais en 1223 avec lui sur le chemin de Saint-Jacques, si j'avais lancé cette idée des frères marcheurs, des frères prêcheurs, c'est que je les retrouve avec le côté hispanique qu'on a encore dans l'oreille, les petites notes de tout à l'heure. Ce sont les premiers qui vont monter sur les caravelles, ou plus exactement les 12 premiers qui en 1524, après avoir non seulement découvert l'Amérique, mais déjà commencé à grignoter le vrai continent américain. Vous savez qu'on a débuté au Yucatan, mais que Cortés a ensuite pris le Mexique. Et ce Mexique, il est tout neuf, il vient de tomber. On l'appelle justement la Nouvelle-Espagne. Et bizarrement, Mexico Tenochtitlan, on l'a appelé la Nouvelle-Rome. Comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire sur ce continent. Il y a des gentils, il y a des gens qui n'ont jamais reçu la parole divine. Il y a des Indiens qui ont l'air assez doux. Et pourtant, on les a exploités au départ. Mais ces franciscains se disent, tiens, jusqu'à maintenant, on jouait sur le chiffre 3. Il y avait l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Et tout à coup, parce qu'à Saint-Dié, on a discuté longuement, là, dans les Vosges, dans ce petit patelin de l'époque, on s'est dit, mais c'est un quatrième continent qu'on vient de découvrir. Comment est-ce qu'on va l'appeler ? Christophe Colomb, on l'avait déjà un peu oublié. Il y avait quelqu'un qui faisait beaucoup de pubs, il devait faire de la radio ou de la télévision. Il s'appelait Amerigo Vespucci. Quelqu'un qui avait ce côté italien, un peu volubile, un peu beau parleur. Et c'est vrai que tout à coup, il a été choisi comme l'explorateur du moment. Et pourquoi pas, son prénom est beau, Amerigo, America, ça y est, le continent a été lancé. Et puisqu'on a passé à quatre, on s'est dit, il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose de nouveau. Pourquoi est-ce que la volonté divine, le destin, nous offre tout à coup un continent entier qui n'a jamais été touché par la grâce divine, par la religion catholique en l'occurrence? Et ces premiers franciscains vont se lancer, je disais 12 parce qu'ils sont partis à 12 comme les 12 apôtres. Ils ont été les premiers à suivre la trace de ces conquistadors. Je les vois arriver là sur les plages du Mexique, du côté de Veracruz, et puis monter pour s'imaginer l'évangélisation, l'accélération de ces 1000 ans. Imaginez que autour de Mexico, qui avait déjà plusieurs millions d'habitants à l'époque, en quelques dizaines d'années, on va construire entre 2000 et 2500 églises et couvents. Et on part comme ça, à 12, modestement. On rencontre des Indiens, on les convertit. Laissez-vous aller, tout à l'heure vous étiez sur les pavés, on sentait cet air incroyable, vous êtes à 2000 mètres d'altitude. La petite ville où j'ai envie de vous faire pénétrer, ou plutôt où j'ai envie de vous faire grimper une pente qui me touche beaucoup, c'est pavé, mais ce sont de grandes pierres taillées en même temps, qui créent une sorte d'avenue. Il y a encore des arbres qui paraissent avoir été plantés au XVIe siècle, là, juste à l'arrivée des premiers conquérants. Cortés s'est installé tout d'abord dans cette ville qu'on appelle Tlaxcala. Tlaxcala, c'était son deuxième point d'ancrage en partant de Veracruz, de la côte de Sempoala, les premiers Indiens qui l'avaient appuyé, ces Indiens totonaques. Et c'est là, en arrivant à Tlaxcala, qu'il s'est rendu compte que les Aztèques avaient de faux ennemis. On a parlé la dernière fois des fameuses guerres fleuries, ces sortes de cartes de visite que les grandes communautés, les grandes seigneuries, qu'elles soient aztèques ou faux ennemis des aztèques, s'envoyaient pour obtenir, disons, un rendez-vous pour se retrouver sur un champ de bataille et obtenir des prisonniers. Eh bien, Tlaxcala était la capitale d'un de ces petits états, d'une de ces petites enclaves qui se trouvaient coincées à l'intérieur de l'extraordinaire empire aztèque qui était commandé par Mexico Tenochtitlan et par le Tlatoani, celui qui parle, celui qui crée, celui qui commande et qui se trouve dans son palais, là, dans cette immense ville posée comme une Venise au milieu de la lagune. Tlaxcala, c'est exactement la température que je vous donnais tout à l'heure. Cette montée avec des vieilles maisons coloniales de couleur et puis ces arbres centenaires, et tout à coup vous arrivez sur une sorte de plateau. Un plateau qui est dû à la forme même de la roche. On a dû organiser cette place en fonction de la nature elle-même. Et là, vous êtes troublé parce qu'il y a d'abord un clocher. Oh non, je vais peut-être l'appeler un minaret. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, comme en Italie, lorsqu'on sépare le campanile de l'église, ce qui n'arrive jamais en Espagne, ou très rarement en Amérique, et surtout pas dans la première des Amériques, c'est-à-dire celle qui vient d'être occupée par ces premiers religieux que j'évoquais. Et là, vous avez ce clocher qui monte comme ça dans le ciel, vous avez la ville en dessous de vous, sur la droite, et à gauche, vous avez un couvent avec sa vieille patine du XVIe siècle, et un peu plus loin, un porche qui semblerait vous demander de pénétrer. Mais attention, si vous étiez indien, si vous étiez au XVIe siècle, si vous n'aviez pas été baptisé, vous auriez eu l'interdiction de pénétrer par la porte de cette église, de cette première église de Saint-François. Non, non, on vous aurait demandé de vous installer en face, dans une petite chapelle qui elle-même est construite comme un cube. Imaginez-vous un simple cube avec une arche au centre et puis un autel caché à l'intérieur de cette voûte. Vraiment en plein air. Cette impression qu'il y a une communication directe, comme si vous posiez un autel sur une place et que vous le protégiez simplement comme une tente. comme une petite tente de protection. Et vous avez la même chose à côté de l'église, vous en avez eu encore une au fond. Enfin, il y en a plusieurs sur cette place. Toute l'architecture de la place est basée sur cette idée des petites chapelles possas. Ces chapelles qui permettaient justement à un prêtre, un de ses premiers moines, un de ses premiers arrivés d'Europe, qui lui, naturellement, pouvait présenter le Saint-Sacrement, de se placer à l'intérieur et de faire une messe en plein air. Et ainsi, avec des milliers, des centaines de milliers d'Indiens, commencer l'usine du millénarisme, c'est-à-dire les accueillir sur cette place, leur faire un catéchisme assez court, assez modeste, jusqu'à ce que l'indigène, regardez, ils ont les yeux soumis, ils viennent de changer de religion, ils voient tout à coup des rituels très différents, ils découvrent des personnages. Bien sûr, un Espagnol va tenter de sculpter un Christ, il va mettre en valeur une Vierge. Dans ces années 1500, elle est très à la mode, entre parenthèses, puisque dans cette même logique de l'Espagne, c'est un peu le collègue de Saint François, c'est-à-dire le fameux Guzman, Saint Dominique de Guzman, qui avait lancé le rosaire et cette habitude de mettre en avant le culte de la Vierge. Alors elle apparaît un peu partout, elle sera peut-être indienne à Guadeloupe. Mais là, on voit l'installation des saints, on voit l'installation de ces images sacrées, et l'indigène va commencer à coller des images, un peu de maïs, un peu de lune, un peu de soleil. Toutes ces divinités antérieures sont petit à petit plaquées sur ces images, sur ce rituel étrange d'un prêtre avec une longue robe, qui peut être habillé comme un franciscain avec sa bure, et qui leur raconte des histoires et qui fait des choses étranges et qui communie avec quelque chose qui ressemble à du pain ou à une hostie et qui vous dit qu'effectivement l'anthropophagie christique est tout à fait possible, comme on le faisait au moment des grands sacrifices humains, où on pouvait même éventuellement manger un morceau de chair humaine divinisée. Et là, il y a le début d'un syncrétisme. Cet Indien va accepter, non pas le sacrement en soi, mais l'idée, la première idée chrétienne, c'est-à-dire le baptême. Or, le baptême existait déjà chez les précolombiens, et c'est d'ailleurs le seul sacrement qu'ils continuent à accepter aujourd'hui. Les autres les intéressent assez peu. La confession pourrait être publique à l'extérieur d'une église, mais ils n'ont pas du tout le sens du rituel tel que nous l'avons dans l'église classique. Le baptême accepté, un Indien aura naturellement le droit de pénétrer dans l'église de Saint-François. Et j'aimerais vous donner non seulement l'impression et le choc que l'on ressent lorsqu'on pénètre dans cette église qui est une des premières, une des seules conservées dans son jus du Mexique et qui d'ailleurs vient d'être restaurée, le choc est d'importance parce que vous rentrez dans un univers qui a l'air très 16e siècle, avec des murs un peu crus, quelques chapelles qui ont été agrémentées peut-être à un moment donné par du baroque, mais ce qui vous coupe le souffle, vous êtes à 10 000 km de Séville, vous êtes à 10 000 km de Grenade, c'est le plafond. Un plafond de cèdre brun avec des miroitements dorés, avec ces étranges motifs moudéjar ou arabes, enfin arabisants, qui font que tout ce plafond travaillé vous donne l'impression d'avoir été fait, je ne sais pas, je disais Grenade tout à l'heure, mais on pourrait justifier tous les plafonds de tous les palais et de toutes les mosquées de l'Andalousie et de cette partie de l'Espagne qui a été tenue pendant 700 ans par les Arabes. Et c'est vraiment troublant de se retrouver comme ça dans ce milieu où on se dit qu'il y a eu ce mélange. Ces premiers hommes arrivés avaient peut-être des plans, des ouvriers, un converti ou quelqu'un qui n'aurait pas échappé à cette razzia de 1492. Vous savez que l'Espagne s'est vidée de ses Arabes à partir de la prise de Grenade. Elle s'est vidée ensuite de ses Juifs. Et finalement, il n'est resté que des gens qui, non échappés, n'avaient que la possibilité de devenir chrétiens et éventuellement de se glisser dans les cales d'une caravelle et puis sans rien dire de s'établir sur ce nouveau continent. Et quand vous regardez le décor général, vous vous dites qu'effectivement il y a des miracles, parce que maintenant que vous avez ressenti cette impression étrange d'hispanité, de classicisme, je dirais même de Moyen-Âge dans cette église, vous avez envie de glisser juste à côté dans le couvent. Le choc est tout aussi fort. Il y a quelque chose de massif. Le Mexique bouge, il y a du tremblement de terre, on a fait du solide, on a fait des murs d'un mètre d'épaisseur. On sent que l'Indien est encore là pour aider à construire. Il vient de terminer ses pyramides et tout à coup on lui demande de faire une arche et une voûte. Et le patio a gardé toute sa candeur avec cette fontaine qui glougloute doucement, avec la même température que tout à l'heure, un peu ombrée, un peu bleutée, un peu moins inconfortable en plein soleil. Bien sûr, vous ressentez ce délice du couvent et cette façon de pouvoir tourner comme vous le feriez à partir de votre cellule avant de rejoindre le réfectoire qui a gardé sa dimension, qui est maintenant un musée, et puis un peu plus loin les salles de lecture. Et là, tout à coup, vous pénétrez dans une salle où il ne reste pas grand-chose, mais vous tombez sur des fresques. des fresques qui vous rappellent que, ben tiens, c'est vrai que quand on est venu d'Espagne et qu'on s'est dit que nous avions plusieurs millions d'indigènes à christianiser, que vous étiez juste quelques-uns montés sur des bateaux, ben on savait qu'il fallait christianiser, d'accord, mais il fallait construire ces bâtiments, il fallait connaître l'architecture, il fallait prendre des exemples. On ne pouvait pas, par exemple, dans les cales d'une caravelle, placer des toiles ou des statues comme on le voulait. Essayez de comprendre le voyage. Vous partez depuis la Tour de l'Or à Séville, vous descendez le Guadalquivir, et une fois que vous mettez les voiles, après avoir passé les derniers caps des Canaries ou même par les Açores en revenant sur Cuba, ben vous êtes dans l'eau salée jusqu'au cou. Une caravelle, c'est minuscule, ça ne supporte absolument pas des produits qui pourraient s'altérer. Donc une simple toile, une belle toile de l'école de Séville, a rarement pu traverser jusqu'au Mexique ou jusqu'en Amérique latine. Donc on a tout dû faire sur place. Et quand vous pénétrez dans cette salle du couvent, vous voyez des grisailles. Je veux dire par là des peintures sur un stuc blanc avec des détails en noir, peints en noir. Ces grisailles qui ont une précision aussi démoniaque que si vous étiez dans les meilleurs endroits d'Italie, d'Espagne ou même de Flandre. Cette impression d'avoir une précision dans le dessin qui fait comprendre qu'il a fallu un modèle. Alors là, tout à coup, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'on pourrait transporter depuis l'Europe pour réimaginer le monde européen dans ce monde complètement nouveau et qui n'a rien de commun avec l'entendement classique, ou je ne parlerai peut-être pas de la Renaissance, mais en tout cas de ce Moyen-Âge, parce que l'Espagne a un peu oublié la Renaissance. On n'est pas renaissant en Espagne, on est encore à l'heure de la chevalerie, on est encore en train de continuer à casser du sucre sur des ennemis qui au départ étaient des Arabes, et depuis 1492 qui allaient devenir des Indiens. Et ces motifs, eh bien, nous font penser que, ben, je ne sais pas, je serais parti avec un petit rouleau, avec quelques gravures, et je les reproduis. Et puis comme je suis franciscain, je vais reprendre l'histoire de mes saints. Ah tiens, là vous avez saint Antoine de Padoue. Un peu plus loin, vous allez retrouver saint François lui-même. Vous allez retrouver les grands ordres. Mais avec une précision qui est vraiment diabolique. On se dit vraiment qu'on est dans un art tout à fait logique et classique. Comment comprendre que ces hommes, avec une telle foi, ont voulu transmettre... Là, c'est plus tout à fait l'univers indien, puisque je suis dans un couvent qui, au départ, est conçu pour des gens de couleur blanche. Mais petit à petit, pour les gens simples, je ne parle pas des prêtres. Il y a très peu de prêtres qui vont l'être avec une couleur foncée. Ce sont naturellement les suivants et puis les petits moignons éventuellement, oui, pourraient être métissés, indiens. Mais là, vous êtes tout à coup, je le disais, dans un soleil de Castille, dans un soleil d'Andalousie. Le Mexique paraît très loin. Il paraît très loin et pourtant, regardez, lorsque vous sortez, vous avez les collines, vous avez des cactus, vous avez du jaune, quelques petites taches vertes. Une ambiance qui fait que si j'étais espagnol, ben, j'irais un peu plus loin. J'inventerai l'hacienda ou l'encomienda. L'hacienda, oui. Une hacienda avec quelques centaines d'hectares et une ambiance. On y mettra le paysage, il y a toujours du jaune. Tiens, il y a un petit volcan à l'horizon. Faire un tour de déambulatoire. Vous aimez la façon de peindre les murs en extérieur? On a l'impression de coups de chiffon comme ça, pas très unis. Ah, ça n'est pas le rouge de la ville. Non, non, là, il y a le couvent de Tlaxcala de Saint-François était peint en rose comme ça, un rose vieilli comme ça. Oui, comme quand une rose se fane. Des tons qui font que parce que le mur n'est pas très plat, que le soleil est très haut, il y a des nuances comme ça. Vous avez envie de toucher le mur, comme on a envie de caresser un tableau de Rothko. Il y a des sensibilités à l'intérieur de ces demeures du 16e, à l'intérieur de ces couvents, de ces églises, qui font que... Comment ces Espagnols ont pu retrouver exactement le confort et l'architecture qu'ils aiment le plus? Et là, vous venez de terminer la visite, vous avez vu les fresques. Tiens, une croix qui ressemble à quelque chose qui fait penser à des cactus croisés. Vous savez, ces cactus orgues comme ça. Oui, des croix qui ne sont pas vraiment espagnoles. Tiens, il y a quelque chose d'indien là derrière. Et puis dans la cour, dans le deuxième petit patio, il y a une autre croix. C'est une de ces croix où vous vous amusez à perdre quelques minutes parce qu'il y a tous les instruments de la passion. Tiens, j'ai trouvé l'échelle, j'ai trouvé la petite éponge. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais c'est le coq de pierre, bien sûr. Et puis la couronne d'épines, tout cela gravé sur le devant de la croix. Une très belle pièce du 16e siècle. Et puis, vous sortez et vous êtes interpellé par simplement deux socles de colonnes qui ont été déposés là. Et vous allez remarquer curieusement que, comment vous l'expliquez, lorsqu'on découpe un fût de colonnes, on doit faire des fûts les uns sur les autres, c'est-à-dire que la colonne n'est pas forcément monolithique. Vous avez une belle base qui est taillée dans la masse, c'est le début du fût. Et là, ce fût est simplement posé comme cela devant la porte. Ah, c'est le conservateur qui a voulu la chose. Ce qui est fabuleux, c'est que vous remarquez que le basalte qui a été utilisé est un basalte qui avait déjà servi à l'époque précolombienne. Tlaxcala était un site aussi impressionnant que Mexico, Tenochtitlan. Il y avait des pyramides, il y avait une structure, il y avait une civilisation très parallèle à celle des Aztèques qui vivaient ici. Et on a demandé à ces Indiens, même s'ils étaient les amis des Espagnols, c'est eux qui vont aider par dizaines de milliers à conquérir le pays, ils iront même jusqu'au Guatemala. Toutes les villes les plus importantes du Guatemala ont des noms qui font qu'à l'oreille on sait qu'on parlait le Nahuatl, c'est-à-dire la langue de Tlaxcala. Je ne sais pas, vous avez des Mazatlan, Mazatenango, qui veut dire l'endroit du cerf. Vous dites, tiens, c'est vrai que ce n'est pas du tout une langue maya. Ces gens ont voyagé avec les Espagnols, ont envahi le monde indien en étant les amis des Espagnols. Donc Tlaxcala va être protégée par les Espagnols. Elle gardera ce côté indien que j'évoquais déjà dans cette église et cette ambiance conventuelle. Mais ce fût de colonne, il est étrange parce que le dessus est encore gravé exactement d'une sculpture aztèque. C'est-à-dire que l'artisan qui en a fait une colonne bien espagnole avait caché entre les deux points de collage. Vous imaginez, le fût de dessus va se poser sur celui de dessous, vous me comprenez, comme si vous posiez des plots de votre enfance les uns sur les autres. Mais entre les deux collages des plots, les Indiens ont souvent laissé une partie de leur ancienne sculpture qui a été détruite volontairement pour créer ces colonnes. Et on a ça dans tous les murs de ces couvents, dans toutes les pièces sacrées. Bah tiens, on est presque sûr que les fonts baptismaux qui sont dans l'église ont été pris dans un immense bloc qui avait une conscience précolombienne, si j'ose dire. Les premiers baptisés, ces premiers princes tlaxcaltèques, qui ont accepté de changer de religion, l'ont certainement fait en sachant pertinemment que la matière qui permettait de recevoir l'eau bénite était bien quelque chose qui appartenait encore à leur culture. Ça, c'est très indien. Et lorsque vous sortez de cette église et que vous visitez la ville, vous vous dites que même les bâtiments les plus simples ont encore gardé des racines indiennes. Oh, ça n'a pas du tout, ça ne donne pas la même impression qu'à Cusco, où vous avez encore les pierres de l'époque, vous avez encore toute l'empreinte incaïque, mais il y a quelque chose, au tournant d'une rue, ça sent l'indigène, il y a encore des détails dans les églises, lorsque vous pénétrez, elles sont curieuses, à part celle de Saint-François qui avait quelque chose de très classique, très 16e siècle, très premier dessin ramené sur un agenda depuis l'Espagne, toutes les autres églises de Tlaxcala, et c'est ça qui nous touche. Il y en a une tous les 500 mètres, tous les kilomètres. Vous n'allez voir que cela dans le paysage urbain et même à l'extérieur, en pleine campagne. C'est un des plus petits états du Mexique. C'est un des plus habités aussi. Ces Indiens ont été protégés par les Espagnols. Ils ont gardé des lopins de terre. Il y a une impression de... Ça grouille. C'est comme une immense fourmilière, ce tout petit état de Tlaxcala. C'est un des plus difficiles sur ce qui est agricole et paysan. Bien sûr que ces répartitions un peu trop découpées de terre font qu'il y a de grosses difficultés économiques. Mais on sent que tout est vivant et tout est habité. Un village touche presque un autre. Quant au Mexique, vous pouvez faire 200 ou 300 kilomètres parfois dans le nord avant de voir le premier piéton au bord de la route avec son cheval ou le premier cowboy qui se balade. Eh bien, il est vrai que là, vous avez l'impression que tout est vivant. Et ces églises, vous avez envie de toutes les visiter parce qu'elles sont faites, ben, je ne sais pas, quand vous passez devant une pâtisserie qui est bien chargée au Mexique, on n'a peut-être pas envie de manger, mais on a envie de regarder en tout cas. Il y a des couleurs incroyables, il y a vraiment des formes comme les gâteaux de mariage, vous savez, ces choses insensées qui montent comme ça vers le ciel. Alors ça, bien sûr, c'est l'école baroque, c'est l'époque beaucoup plus tardive, mais ça ressemble vraiment à du sucre, ça ressemble vraiment à, ben, par exemple, dès que vous êtes devant une façade, il y a non seulement ce blanc qui est déjà travaillé avec des décors extrêmement fleuri, mais vous aurez des milliers de carrés de céramique de couleur. Vous savez, les fameux azulejos, comme on les a en Espagne, comme on les trouve à Grenade, comme on les trouve à Séville, mais qui ont été carrément posés dans les cales. Alors ça tient bien le coup dans les cales d'une caravelle. Et l'Espagne avait même interdit au départ la production des azulejos en Nouvelle-Espagne. Ben, je ne sais pas si vous le savez, mais dans un paysage comme celui que l'on voit autour de nous, qu'est-ce que je pourrais vous y mettre? Des amandiers, des oliviers, de la vigne. Ben voilà, parmi les interdictions, il n'y avait pas d'olives, il n'y avait pas de vignes, il n'y avait pas d'amandes, mais il n'y avait pas d'azulejos non plus. Et ces céramiques, elles étaient importées au départ d'Espagne. Et c'est parce que la ville un peu plus lointaine qu'est Puebla, qui va être la plus espagnole, la plus blanche de toute cette partie du Mexique, là, vous la voyez quand vous prenez la route depuis Mexico, c'est cette immense ville posée sur une colline qui est au pied du Popocatépetl et de l'Iztaccíhuatl, les deux grands volcans, dans ces immenses paysages, eh bien vous vous dites que c'est là qu'effectivement pourrait naître éventuellement une production espagnole. C'est là qu'on va faire les premières céramiques et qu'on va petit à petit s'inspirer de... Je suis obligé de vous amener très loin là. Essayez de vous tourner du côté du soleil couchant lorsque vous êtes espagnol. On avait coupé le monde en deux aux alentours de 1494-1496, la moitié au Portugal, la moitié à l'Espagne. C'est-à-dire que la ligne qui partait... depuis l'Europe, faisait que l'Afrique, les Indes, toute cette partie qui allait sur l'Est appartenait au Portugal, jusqu'aux Moluques, grosso modo, si vous ouvrez votre map monde ou si vous la tournez, ça serait beaucoup mieux. Et de l'autre côté, l'Espagne, à part le Brésil, qui était resté portugais à cause de la ligne de démarcation, qui était justement à 300 lieues des îles du Cap-Vert à l'intérieur de l'Atlantique, eh bien, l'Espagne aura naturellement toutes les Amériques, et puis beaucoup plus loin, les Philippines. Vous y êtes? Vous trouvez peut-être un peu curieux d'aller jusqu'aux Philippines en parlant d'un petit carré de céramique. Eh bien non, si vous étiez espagnol et que vous vouliez aller en Chine ou au Japon, vous ne pouviez pas prendre la voie de l'Afrique ou la voie des Indes. Non, non, vous deviez passer depuis Séville sur Cuba et ensuite rejoindre Mexico, traverser tout le pays, vous retrouver dans une ville que tout le monde connaît aujourd'hui qui s'appelle Acapulco, qui est devenu le grand port de l'Asie, bizarrement. Et à partir de là, vous alliez traverser le Pacifique pour aller chercher des produits exotiques, asiatiques. Donc là, à Tlaxcala ou à Puebla, eh bien, on porte des mantilles aujourd'hui qui ressemblent à celles des Philippines. On a eu l'habitude de recevoir des céramiques de l'époque Ming. On s'est habitué à la porcelaine chinoise. On a reçu des jades, des produits comme cela de luxe. Les soies, bien sûr. Le verre à soie va s'installer aussi au Mexique pour longtemps. Et ces céramiques vont inspirer les premiers artisans pour les azulejos. Alors vous voyez maintenant une belle assiette chinoise avec du bleu et du blanc. Vous y mettez éventuellement une forme typiquement carrée pour en faire vraiment l'azulejo classique et vous collez maintenant cela sur toute ma façade de tout à l'heure. C'est-à-dire que vous allez inonder les façades des églises et puis surtout toutes les coupoles. Ces coupoles qui montent vers ce ciel bleu qui tout à coup vont virer au jaune citron et qui auront en même temps ce bleu sur ce fond blanc. Enfin, des contrastes absolument pétants sur une brique rouge, par exemple, le fond restant la brique rouge et le stuc blanc. Alors un peu de rouge, du blanc dans le décor, ce bleu, ce jaune, ça devient un vrai gâteau d'anniversaire. Vous voyez que quand je passe devant ma pâtisserie, je peux choisir n'importe quel gâteau de mariage. J'ai une église de Tlaxcala. Elles sont posées comme ça, tous les 500 mètres, tous les kilomètres. Vous venez de sortir de la ville de manière imperceptible. Vous avez passé dans ces rues très basses, avec toutes les maisons d'un étage, avec des patios intérieurs, avec un côté confortable. Je disais fin de printemps, vous vous rappelez de la dernière journée de mai que vous avez vécue, c'est-à-dire juste le moment où vous dites là, je suis dans un axe magique de saison. Ma peau est bien, je suis bien, je respire bien, il fait bon. Eh bien, c'est exactement comme cela qu'on vit presque toute l'année à Tlaxcala, sauf en saison des pluies. Mais le parapluie n'est pas obligatoire, la pluie n'est pas vraiment si froide que cela, même si vous êtes à 2000 mètres d'altitude. Et j'ai envie de continuer ma route en visant comme cela la direction de Veracruz. Et là, vous allez petit à petit découvrir des paysages qui sont ceux de notre enfance. C'est vrai que la première fois où on a ouvert une bande dessinée, où l'on a lu des histoires de cow-boys, on cherche à voir des paysages infinis. Et là, vous pourrez rencontrer, je dirais, des horizons qui vont jusqu'à 80, 100 kilomètres, avec, je le disais aussi, quelques petits volcans. C'est des formes coniques parfaites, avec juste le dessus que vous auriez enlevé. Vous savez, comme quand vous commencez un cône glacé que vous arrachez le sommet avec une petite cuillère. Il y a juste ce petit rien qui casse le haut de votre mini Fujiyama et vous en mettez comme ça une dizaine à l'horizon. Ils ont encore un ton un peu vert parce que souvent il y a quand même de la végétation qui grimpe doucement. Et puis en bas, avant le début de la plaine, vous auriez des milliers de cactus, des yuccas ou éventuellement ces magueys. Le maguey, c'est cette agave beaucoup plus souple et large qui peut atteindre 2 à 3 mètres de diamètre et lorsqu'elle fleurit, elle monte d'un seul coup à 7 à 8 mètres de hauteur. Il y en avait des champs. On les exploite encore pour en faire du pulque. Et là, petit à petit, sans vous en rendre compte, vous roulez doucement. Vous venez de traverser un premier petit village, un deuxième. Ah, il y a un marchand de fruits, il y a un marchand qui va vous offrir quelques pommes, quelques pêches, quelques abricots, selon la saison, pardon, ou éventuellement des poires. J'en parle parce que ce sont des fruits exotiques finalement pour le Mexique. C'est un peu comme ce que j'avais ramené dans mes caravelles. C'est des choses qui n'existaient pas en Amérique mais qui correspondent tout à fait à l'altitude à laquelle vous êtes. Et si vous êtes à cette altitude et que vous êtes espagnol, vous avez envie d'y rester. C'est-à-dire c'est vraiment votre correspondance. C'est là, à cette hauteur, que l'espagnol s'est senti chez lui finalement dans cette nouvelle Espagne. Et si on l'a appelée Nouvelle Espagne, c'est parce qu'elle avait quelque chose de résonnant par rapport à la terre-mer par rapport à cette péninsule ibérique. Et là, dans cette partie qui ressemble à de grandes plaines, où vous avez des champs de maïs à l'infini, déjà des céréales nouvelles, peut-être un peu d'avoine, éventuellement des fèves, peut-être de l'amarante qui en saison tourne au rouge violacé lorsqu'elle est fleurie. Lorsque vous avez cette richesse, vous dites il y a de l'eau, il y a des températures agréables, il y a une saison des pluies bien marquée, il y a même des gelées. Et parfois en plein hiver, et là tout à coup, il n'y a plus d'église, il n'y a plus de maison. Non, de temps en temps, il y a un mur un peu démoli au sommet d'une colline. Tiens, un porche, tiens, une toute petite chapelle avec un cimetière, et puis un autre mur blanc, et tout à coup, une longue plaine très très douce. Et vous voyez à l'horizon une centaine de chevaux, juste comme cela, qui se baladent dans quelque chose qui fait penser, tiens, sur la droite là-bas, il y a aussi des taureaux. Des centaines de taureaux noirs. Est-ce que ça fait penser à ces grandes plaines du côté de Jerez, au nord de Séville, juste avant Cordoue? Ah, juste au dernier virage, avant la piste, vous passez un petit pont qui ressemble à un pont romain. Là, je ne suis plus au Mexique, plus du tout. Et au fond, juste dans un creux, un lac de rétention, de l'eau, quelques alamos. Quand on dit alamos, vous êtes d'accord? Ça fait penser à ces terres de semi-cowboy, de nouvelles explorations, de nouvelles exploitations, et puis un grand carré magnifique, avec une ou deux ponctuations qui feraient penser à des défenses, un porche, quelques arbres bien taillés, des lauriers des Indes, et puis derrière, une autre petite chapelle avec un portail à peine ouvert. Et ça, c'est encore très loin. C'est une hacienda, une véritable hacienda. Au fond de l'eau, dans le miroir de l'eau, encore un volcan. Parfait celui-là. Et puis, juste sur la crête, un petit village. Ça pourrait être Ronda, ça pourrait être Arcos de la Frontera. Là, c'est vrai qu'on a presque l'impression d'avoir pris la route des villages blancs. Vous y êtes? Oui, vous mettez le chapeau de côté, vous montez sur votre cheval, vous allez chercher les taureaux. Ils partiront un jour pour l'arène. 50 000 personnes à Mexico le dimanche. Les lauriers ne fleurissent pas, non, ils sont verts toute l'année. Et puis, il y a quelque chose de curieux lorsque vous venez de poser le pied à terre. Vous êtes à cheval, oui, c'est normal. La piste est encore étroite, on pourrait même venir en voiture, mais si vous avez la possibilité de prendre un cheval et d'y arriver comme cela, ce qui va vous étonner, c'est qu'il n'y a que les sabots de votre animal, il n'y a que le glissement de votre selle, que le petit cliquetis de vos étriers, le souffle de l'animal, un peu de vent dans les oreilles. Et puis les alamos qui frisent comme cela à l'horizon et qui donnent juste ce tout petit son que l'on a lorsque la brise se lève et qu'il fait déjà un peu chaud. Et puis tout au fond dans la plaine, juste à côté du lac, parce qu'il a déjà baissé, vous êtes en mi-saison, on a utilisé l'eau pour l'irrigation, pour permettre à tous ces taureaux et à ces vachettes de s'abreuver. Il y a une terre qui peut être rouge ou jaune foncé, comme ça. Et il suffit que la brise s'y mette et hop, vous avez un tourbillon qui se forme, qui monte vers le ciel. On sent que le dieu du vent est encore présent. Et vous vous présentez en cascade, comme cela, jusqu'à la hauteur de l'hacienda. Elle a l'air abandonnée, comme ça. On a l'impression qu'elle n'est plus tenue depuis le XVIe siècle. Tiens, les bâtiments qui servaient à entreposer les centaines de fûts, de barriques, d'outres, de maguets, transformés en pulque, c'est-à-dire de cette bière qu'on produisait ici sur des dizaines, voire des centaines d'hectares, eh bien, ont été remplacés par l'élevage de taureaux dont je parlais. On est revenu aux origines. Ces premiers Espagnols qui ont tenté, vous imaginez, partir de Séville avec un beau taureau de combat et puis sa gentille vachette femelle, et mettre tout ça sur une caravelle en leur donnant à manger ce que vous pouviez jusqu'à ce que, en passant par Cuba, vous puissiez monter depuis Veracruz et vous installer petit à petit avec quelques moutons, quelques chèvres, quelques bestioles qui n'existent pas sur ce continent. Enfin, tout à coup, une sorte d'invasion secondaire, animale et puis, comme je l'évoquais pour les fruits de tout à l'heure, végétale bien sûr. Et là, vous allez poser le pied à terre. Or, vous aurez remarqué effectivement que vos étriers ne sont pas comme les nôtres. Ils ressemblent à des gros sabots, ils sont faits d'argent ou de simple métal. Il y a la forme de la selle aussi qui est différente. Vous savez qu'on a toujours cette espèce de pointe bizarre, gainée de cuir, bien serrée sur l'avant, qui vous donne une assise assez curieuse. Lorsqu'on est macho, on sait de quoi on parle. Si le cheval se met à galoper, on a des fois l'impression que c'est la selle la plus inconfortable qui soit. Ah non, ça n'a rien d'anglais, c'est vrai. Le cheval est petit, il est assez maigre, il est solide, il est têtu parfois. Et il connaît bien les autres animaux qui vivent sur la propriété. Quand on doit s'occuper de plusieurs dizaines d'hectares, lorsqu'on croise par hasard un taureau, eh bien le cheval sait très bien qu'il ne doit pas s'en approcher. Je veux dire par là que c'est un interdit, vous le saviez? Les taureaux, à l'instant où ils tombent du ventre de leur mère, doivent rester vierges, vierges jusqu'à l'heure où ils rencontreront l'homme, l'homme de lumière dans l'arène. Un taureau de combat ne doit jamais rencontrer l'homme avant de rencontrer l'homme. Et il vit toute sa vie de taureau jusqu'à ce qu'il soit mûr, jusqu'à ce qu'il soit beau. La seule personne à laquelle on s'intéresse, je dirais personne, parce que quand on voit le contact du propriétaire avec ses vachettes, on comprend que c'est un lien affectif très curieux. Non, la seule qui compte, c'est la femelle. Je veux dire par là qu'on essaie de comprendre le caractère du futur taureau à travers la vachette. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi un petit endroit où l'on s'entraîne. Nous, on ne joue pas au toréador, pas du tout, mais on essaye d'entraîner les vachettes pour voir si elles donneront naissance à de futurs combattants. On se croirait de nouveau dans un système sacrificiel à la façon précolombienne. Et là, on n'a encore pas pénétré dans l'hacienda, mais vous êtes accompagné par un autre cavalier. Il a quelque chose d'altier, quelqu'un qui doit, par sa stature, me dépassait un peu, 1,90 m, les épaules bien larges, la voix beaucoup plus grave que la mienne, un côté un peu macho avec un rien de moustache, comme ça. C'est le directeur du musée où vous étiez tout à l'heure. Il s'appelle Sabino. Sabino, c'est un arbre qui pousse d'ailleurs sur sa propre propriété. Vous y êtes, il a reçu comme cela par héritage par le hasard de ses ancêtres, qu'ils soient yanos, qu'ils soient bretons, ces quelques hectares de terre qui ont diminué comme ont diminué toutes les haciendas à partir des années 30 au plus tard, lorsque la réforme agraire a balayé tout le Mexique après la Révolution, où les centaines d'hectares ne sont devenus que des dizaines d'hectares, ou voire même moins, c'est-à-dire qu'on ne garde que la propriété, souvent, le lac à côté éventuellement, et encore, il faudrait peut-être le partager avec un ou deux villages pour que tout le monde puisse s'alimenter. Non, non, les temps ont bien changé. Donc, si vous gardez une hacienda au Mexique, c'est plutôt parce que vous êtes, comme lui, restaurateur en chef. C'est vous qui avez demandé de repeindre le musée, de restaurer l'église, de vous occuper de tout ce qui est colonial et précolombien. Vous avez dans l'âme un don de restaurateur, de peintre. Et là, vous allez voir, déjà rien que dans le jus de départ, au moment où vous posiez votre pied au sol, vous avez senti que vous aviez changé d'époque. Il n'y a plus de ville, il n'y a plus de village, il n'y a plus rien autour de vous, mais l'hacienda tout à coup respire comme si vous étiez au 17e, au 18e. Et à l'instant, vous entendrez l'écho des sabots de votre cheval sous la voûte pour pénétrer dans la première cour, vous allez remarquer que vous êtes rentré dans un autre monde. Il y a la fontaine, bien sûr, comme toujours, au milieu, une petite rampe autour, des portes. Des portes qui sont très grandes, elles sont tellement hautes qu'elles ont l'impression, elles nous donnent l'impression d'être faites pour des géants. Elles ont souvent 3, 4 mètres, voire 5 mètres de hauteur sur un étage unique qui lui monte parfois 7, 8, 10 mètres de hauteur. Et c'est rangé de façon extrêmement claire et nette, avec un rythme bien précis. C'est-à-dire au milieu du patio principal, de la place principale, il n'y a qu'une succession de portes autour de vous, toutes semblables, avec éventuellement une échappée. C'est là que votre cheval de fils, au moment où vous le lâcherez, va grimper la rampe pour retrouver les écuries, avec une cinquantaine d'entrées, toutes identiques aussi, avec ce côté très classique, la sellerie, les endroits pour tout ce qui était produits, grains, entrepôts. Et là, dans la cour principale, vous allez remarquer une chose étrange. Il y a une porte qu'on remarque être plus utilisée, parce qu'elle est en face du perron principal. Et dès que vous aurez pénétré à l'intérieur, vous tomberez dans des salles qui vont vous coupez le souffle. Elles sont hautes, je le disais, mais elles sont couvertes simplement de poutres qui peuvent atteindre 5 ou 6 mètres de longueur, rangées comme cela tous les 20 ou 30 centimètres de façon très serrée. Et ça vous donne une impression de respiration, de fraîcheur, de confort. Et vous êtes attaqué par tout ce qui se trouve au mur, parce que c'est comme si vous étiez rentré dans un musée. Ça va du simple fouet, en passant par le chapeau révolutionnaire, en terminant par, je ne sais pas, une peau de serre, une vieille céramique française de l'époque Napoléon III, un siège à bascule, un vieux coffre-fort qui servait au moment de la Révolution, une table immense. Elle a été mise avec une vieille dentelle, avec des assiettes aux armes de vos ancêtres. Une espèce de petit Versailles posé comme cela en plein milieu d'une nature avec un tout petit côté déglingué. Vous voulez la visiter, cette hacienda? Je vous assure. Tiens. Grand-maman est dans sa chaise à roulettes. Elle vous accueille avec un sourire et une petite lèvre serrée sur une autre petite lèvre bien rouge, comme une petite fleur. Et dans ses yeux, il y a toute la mémoire, celle du père, du grand-père, des ancêtres. On se croirait presque à l'église de Saint-François. De vous rafraîchir. Passez dans l'autre pièce, une clepsydre, de l'eau pure, de l'eau fraîche, une cuisine comme on en rêve, avec de la brique rouge, avec des cattels, avec les mêmes azulejos de tout à l'heure, un foyer qui reste là, une femme avec deux tresses qui s'occupe de réchauffer des haricots rouges, un peu de tortilla avec du maïs, et puis des boules, une sœur, une autre sœur, des enfants. L'hacienda s'anime, elle est beaucoup plus vivante qu'on le croit. Au fond, un cellier, peut-être le plus beau que je connaisse, avec un vieux calendrier de 1933, avec des centaines de petits brocs crochés sur les murs, des plats de céramique pour les grandes fêtes qui peuvent atteindre un mètre de diamètre, avec cette belle terre rouge brillante. Et puis des produits, tous les produits qui doivent sécher, qui doivent attendre, quelques grilles, quelques grillages pour protéger les choses, la viande. C'est vraiment une respiration d'une autre époque. Et puis, vous pouvez ensuite courir d'une pièce à l'autre. Il n'y a que des portes qui vont de porte en porte. Dès que vous avez passé la première, vous voyez le fond de l'hacienda, c'est-à-dire le fond de cet immense carré. Il n'y a que la voûte D'un côté le bureau, de l'autre le grand salon. Le grand salon encore plus désuet, avec, tiens, ce soir il pourrait y avoir un petit duo ou éventuellement un petit orchestre. Ou alors les voisins d'Amantla qui seraient venus avec leur sitar et qui vous mettraient un peu d'ambiance juste à l'heure où le soleil se couche là-bas, dans le fond, juste à l'endroit où les taureaux se sont installés sous les alamos. Oui, une fin de journée où on aurait envie d'allumer un feu, d'imaginer cette vie telle qu'on l'a eue au 16e, 17e, 18e, 19e siècle. Je les égrène, le 20e est là, et pourtant il y a encore des lieux magiques comme cela, un peu abandonnés, au milieu de la nature, avec des gens passionnés, qui ont envie de faire revivre ces endroits, ou plutôt de les conserver. Si vous étiez un jour l'hôte de Ténérac, eh bien, ça n'est pas que de l'eau fraîche qu'on vous offrirait, mais d'abord, un verre de tequila et un peu d'ambiance mexicaine.